France Inter, le 6-9 de l'été, Amélie Perrier.
À la fraîche, on sort dans le jardin, on écoute pousser nos plantes avec la main verte d'Alain Baraton. Bonjour Alain.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Alors, vous nous parlez ce matin de phytophotodermatose. Et pour
bien.
Ce faire, eh bien oui, vous nous présentez Léonie. Elle a 8 ans, elle profite du soleil de juin en Corse pour s'amuser dans le jardin.
Et oui, et la fillette prépare des potions magiques. C'est amusant et sans danger, car elle ne mange ni ne boit ce qu'elle fait. Elle se contente simplement de couper et de broyer les feuilles de quelques arbres et arbustes. Le soir venu, Léonie se plaint d'avoir les mains qui brûlent. Le lendemain, la situation empire et des cloques apparaissent. La petite ne peut même plus plier les doigts.
Fort heureusement, la maman a fait ce qu'il fallait.
Elle a emmené Louise aux urgences, une petite d'ailleurs occasion de saluer ceux qui nous soignent. Et c'est depuis que l'origine des brûlures est causée par la sève contenue dans le feuillage des lauriers.
Et fort heureusement, cette situation est exceptionnelle, Alain.
Détrompez-vous. Comme le révèle le journal Sud-Ouest, des enfants de CP et CE1 qui jouaient à la dinette ont été hospitalisé en mai dernier pour des brûlures au deuxième degré causées, là encore, par des feuilles de figuier.
Il est donc très utile de savoir que la sève du figuier est phototoxique.
Et oui, et qu'elle est donc à l'origine de ce que vous avez magnifiquement prononcé, la phytophotodermatose, à savoir, je prends la définition exacte, une réaction cutanée anormale ou exagérée lors de l'exposition au rayonnement solaire après contact avec une plante due le plus souvent à la présence de furocoumarine, pour faire simple, des agents toxiques photosensibles. Mmh. Alors, pour éviter de tels désagréments, il est préférable bien sûr de se tenir à distance de la sève du figuier, surtout quand il fait soleil, et de jardiner avec les bras couverts et des gants, surtout si l'on touche les plantes à risque.
Mais quelles sont-elles?
Millepertuis, coquelicot, panais, carottes, céleri, persil, tournesol, ail, oignon, dahlia, artichaut, bouton d'or, figuier bien sûr, et bien d'autres plantes encore.
Mais il y en a.
Et oui, les scientifiques estiment à 10 000 le nombre de plantes qui peuvent être source de dermatite de contact. Dans les campagnes, on l'appelle même la dermatite des prés. C'est un truc que les anciens connaissent bien. Alors, cela signifie surtout qu'il existe aussi, rassurez-vous, 490 000 espèces végétales qui, elles, ne représentent aucun danger.
Mais quand même, ça nous donne des raisons de vouloir arrêter de jardiner, même de toucher aux plantes.
Non, il n'y a aucune raison de s'affoler, d'autant qu'il faut un contact avec une feuille et souvent de la sève et un soleil au zénith. Alors nous ne sommes pas non plus tous égaux face à la maladie et certaines peaux sont bien sûr plus sensibles que d'autres. Mais il est bon de savoir que certaines rougeurs constatées après une journée allongée dans un jardin ou sur une pelouse ne sont pas forcément dues aux aoutas, aux chenilles processionnaires ou autres bestioles, mais peut-être à des plantes. Et il était bon, je crois, ce matin, de le savoir.
Très bon, merci. Alain, on va passer aux questions de nos auditeurs. Et on commence avec celle de Martine. Alors, elle vous écrit, elle vous dit « Tout le monde me vante la facilité d'entretien des élébores, mais chez moi, elle meurt. Je les mets en pot, terreau horticole, soleil le matin jusqu'à 11h environ. Ensuite, elle se trouve à l'ombre. Quoi que je fasse, elle dépérisse. Que faire ?»
Le problème, voyez-vous, c'est que les plantes sont des êtres vivants. Effectivement, l'élébore est un végétal sublime qu'on appelle la rose de Noël. C'est un végétal qui aime les situations ombrées, voire même assez obscures, sans exagération. Elle aime bien les terres humides, elle aime bien les terreaux. Jusqu'à présent, tout est bon, mais c'est une plante qui a besoin de repères. Quand vous mettez une plante en pot et que vous la transportez du matin au soir, la plante est en situation de stress. Les feuilles se mettent en relation avec le soleil, se dirigent vers la lumière pour mieux faire ce que l'on appelle la photosynthèse. Quand vous prenez une plante et que vous la changez sans arrêt, elle a du mal à s'adapter, elle est paniquée, elle est perdue, elle développe un stress et le stress d'une plante se concrétise souvent par le dépérissement du végétal. Donc on prend les bords, on la met pas sur le balcon le matin, on la laisse toujours là où elle est l'après-midi, à savoir situation ombrée.
Elles n'aiment pas voyager, nos plantes.
Pas
c'est
trop.
Entendu.
Les plantes, les plantes n'aiment pas trop qu'on les bouge, effectivement.
Alors Benoît, maintenant, il a planté un lilas et depuis une quinzaine de jours. Le pourtour des feuilles est mangé. Il voit aucun insecte. Il n'y a pas d'oiseau non plus qui mange les feuilles. Quelle peut être l'origine de ces petites traces?
Oh, quand la plante est découpée façon dentelle, il y a une bestiole. Sans que j'adore cette bestiole, l'otiorinque. Je ne vous demanderai pas.
Non, rassurez-vous, je vais pas l'écrire.
C'est un coléoptère noir, il y a deux grandes antennes sur le devant et qui voyage la nuit. En fait, lui, il boulotte la nuit. C'est une plante nocturne. Alors, dans la journée, on le voit pas. Il est sous les feuilles, il est planqué et le soir, hop, il attaque son opération pique-nique. Alors, comment faire pour s'occuper des otiorinques? Extrêmement simple. Vous prenez un seau, vous prenez une lampe électrique, et je ne plaisante pas, éventuellement, si vous êtes délicate, vous prenez des gants, et vous allez tout simplement dans votre jardin la nuit, vous éclairez votre lilas, vous les verrez, ils ne partiront pas. Vous les attrapez délicatement, vous les mettez dans le seau, ensuite vous allez les mettre tout aussi délicatement sur le lilas du voisin, mais vous êtes débarrassé pendant quelques temps.
Oui,
mais
sympa pour le voisin,
mais on va pas tuer les bestioles comme ça, mais ce sont donc des oturinques qui travaillent la nuit.
Sympa pour le lilas du voisin. Alors, une auditrice vous demande, Alain Baraton, elle a plusieurs jasmins qui ont fleuri, mais désormais, ces jasmins, ils piquent du nez. C'est la première fois. Quelle peut en être la raison et comment y remédier?
En ce moment, il y a deux problèmes majeurs pour le dépérissement des végétaux. L'excès d'eau ou le manque d'eau. Et beaucoup de ceux qui nous écoutent s'imaginent que quand il y a beaucoup de chaleur, il faut arroser, arroser, arroser. Lorsqu'il y a trop d'eau dans une terre, la racine ne peut plus absorber parce que elle commence à pourrir. Alors, chose qui est assez amusante d'ailleurs, quand vous avez une terre qui provoque le dépérissement d'une racine, la racine ne peut plus exercer ses fonctions d'aspiration. Moralité, la plante ne peut plus boire et elle meurt de soif. Dans une terre inondée, la plante meurt de soif. Ce qui veut dire concrètement que excès d'eau et manque d'eau, ce sont à peu près les mêmes symptômes, les mêmes conséquences. Donc il y a là un problème. Trop d'eau ou pas assez?
Alors Christine, elle a des arbustes qui ont comme de la mousse sur les feuilles. De quoi s'agit-il?
Alors ce sont des petites bestioles que j'aime beaucoup également.
Ah, vous aimez les bestioles, hein?
Oui, parce qu'on en a besoin. Parce que les bestioles donnent à manger aux oiseaux et j'aime les oiseaux. Eh bien ces petites bestioles, on les appelle des cercops. Elles font partie de la famille des cigales, des cicadelles, des sauterelles. Et en fait, cette bave, c'est pas saut du tout. C'est une manière de se protéger des prédateurs. Quand elle boulotte ou quand elle se nourrit de la sève, elle s'entoure de cette bave, de cette mousse, et comme ça, pas de problème, les oiseaux ne viennent pas les picorer. Que faire contre cette petite bave? Vous prenez votre tuyau d'arrosage, vous mettez un coup d'eau, et c'est ça. Ça suffira pour que tout rentre dans l'ordre.
Dernière question de Martine. Alors, ces framboisiers, l'an dernier, sont morts après avoir jauni. Cette année, le phénomène reprend. Elle a vu le nombre de carapaces, elle avait beaucoup de carapaces de cochenilles. Est-ce que c'est lié?
Oui, certainement, parce que les cochenilles provoquent de gros dégâts, très difficile de s'en séparer. Simplement, quand le végétal est envahi, le framboisier de cochenille, il vaut le tailler très court, se débarrasser des coupes et ne pas insister. C'est très difficile de se débarrasser sur les framboisiers des cochenilles à carapace.
En quelques mots, votre coup de cœur, c'est un livre cette semaine, Le Petit Guide des Plantes Sauvages Comestibles.
Oui, tout petit, tiens, dans une poche, il est signé Morgane Perrault, First Edition, 3,99€, que du bonheur.